Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack & Speak. Aujourd'hui, nous allons reparler Windows, parce que ça nous avait quand même un petit peu manqué. Le web, c'est bien, mais bon, il faut revenir aux bonnes valeurs. Aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un que je voulais interviewer depuis très longtemps, qui a participé au développement de CrackMapExec, quand il pourra nous l'expliquer lui-même. Mais finalement, j'ai attendu avant de t'interviewer. J'ai attendu le bon moment, la bonne période, et ce jour est arrivé. Donc je suis très content de le recevoir. Pas de chance pour lui, il passe juste après l'épisode réalisé avec Agari qui vous a beaucoup plu. Alors, j'espère que tu n'as pas trop la pression et bon, voilà, que tu t'en sortiras tout aussi bien, voire mieux que Agari, qui est un orateur expérimenté. Mes chers auditeurs, je vous présente Thomas, ou de son pseudo Zblurix, ou Zblurx, je ne sais pas comment tu le prononces.
Ouais, mais moi je ne sais pas trop, mais du coup Zblurx on va dire.
Zblurx, et écoute, bienvenue dans ce podcast.
Ouais, merci de me recevoir.
Alors, pourquoi je t'ai invité ? Parce que, comme je l'ai dit, tu as participé au développement de CrackMapExec à travers soit des librairies, soit même du code dans le corps de CrackMapExec, mais tu as aussi fait plein d'autres petits tools open source, et c'est quand même l'essence du podcast, c'est l'open source et la sécurité offensive, et c'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Mais avant de parler de tous ces tools, de tes recherches, etc., pour que nos auditeurs puissent savoir un petit peu te situer, savoir un petit peu ton parcours et ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as fait déjà comme étude ? Personnellement, ça m'intéresse. Et comment tu es rentré dans l'InfoSec ? Est-ce que c'était quand c'était bien avant tes études supérieures ? Est-ce que c'était quand tu étais jeune ? Ou est-ce que c'est arrivé tard ? Et surtout, qu'est-ce qui t'a lancé dans l'InfoSec ? Est-ce que c'était plateforme ou vraiment c'était à l'école ?
Ouais, alors moi, en fait, ouais, je me suis mis à l'InfoSec assez tard. Pour revenir du coup sur le parcours que j'ai fait, en fait, je voulais faire de l'informatique depuis longtemps, mais je voulais plutôt faire du développement. Du coup, j'ai commencé par une licence d'informatique dans une fac. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ça me convenait pas trop, tu vois, parce que, tu sais, t'as les examens de code qui sont sur papier, ce genre de choses.
Ouais, je connais bien, ouais. le OCaml sur le papier, j'en ai connu, ouais.
Ouais, exactement. Et du coup, bah, pour ma 3e année, je suis allé dans une école d'informatique généraliste, mais pas un truc d'ingénieur, quoi. Et pour la petite anecdote, dans cette école, les cours de réseau et de sécu étaient dans les premières années, donc j'en ai pas eu en fait dans cette école. Et du coup, en 3e année, il y a un type d'une promo dessus qui s'amusait en fait à DOS le projecteur du prof en fait pour le hijack, quoi. Et je trouvais ça marrant, du coup j'ai parlé avec lui et il m'a un peu parlé de sécu, il m'a parlé de route mise, ce genre de choses. Et c'est un peu comme ça, on va dire, que j'ai découvert le truc, quoi. Et voilà, après j'ai fait une alternance pendant ma 4e et 5e année d'études en audit de code. Et à la fin de mon alternance, du coup, j'ai fait un stage de fin d'études en pentest. Et voilà, et après j'ai fait du pentest. Enfin, mon stage de fin d'études, tu vois, c'était en juin 2020, donc ça fait 3 ans que je fais du pentest, quoi.
Eh ben finalement, c'est pas si vieux que ça, en vrai de vrai. Et pourtant, tu as publié énormément de tools, on va dire, enfin énormément pour le peu d'expérience, on peut dire ça comme ça, hein, c'est 3 ans d'expérience. Ouais. Dans le monde du pentest, c'est quand même pas mal déjà, quand on fait que du pentest tous les jours. Mais sur l'échelle d'une carrière, finalement, 3 ans, c'est rien. C'est rien.
Ouais, ouais.
Donc c'est encore plus impressionnant. Du coup,
merci.
Qu'est-ce qui t'a poussé finalement, puisque ok, tu étais dev, etc., mais qu'est-ce qui t'a poussé à créer des tools et à les publier open source en fait ? Qu'est-ce qui te pousse à faire de l'open source ?
Bah, en fait, déjà, ce qui me pousse à créer des tools, c'était le fait de vouloir comprendre, en fait. Généralement, quand je veux comprendre un truc, déjà, je vais aller lire les outils qui sont utilisés, etc. Et ensuite, des fois, quand j'ai vraiment besoin de bien comprendre, je me mets à dev. Donc, des fois, je fais juste un petit script dégueulasse. Et des fois, je me déterre et je fais un truc un peu plus complet, quoi. Mais à la base, c'est juste moi pour apprendre le truc et pour kiffer un peu. Et après, ouais, du coup, quand c'est un truc un peu abouti, j'aime bien le publier parce que, bah, déjà, je pense que dans notre taf, on utilise 99% du temps des outils open source. Donc, ça fait plaisir, tu vois, de rendre un peu aux gens qui ont participé, de leur rendre un truc aussi. Et je me dis que, tu vois, s'il y a des gens qui veulent aussi se lancer dans le fait d'apprendre, de lire du code, etc., bah, ça peut être utile, quoi. Si je peux leur apporter quelque chose, tant mieux.
Alors, moi, j'ai une autre théorie, une qui s'ajoute à ce que tu viens de dire, que tu m'as confirmé en off et qui je trouve très vrai et qui est un moteur aussi, c'est que à travers les outils open source que tu publies, finalement tu construis ton CV en fait. C'est une vitrine pour
Bah
tes compétences.
ouais, c'est vrai, hein. Enfin, tu vois, moi, enfin, du coup, j'ai pas de certif pour le coup. J'ai même, enfin, ouais, j'ai pas eu de sécurité dans mes études. J'ai appris un peu tout seul sur Internet et en faisant de l'alternance, etc. Mais du coup, ouais, bah, c'est clair que ça permet de se vendre super bien, en fait, de développer des tools open source, de dire que tu as participé à tel ou tel projet, une packet, etc. En vrai, ça claque, hein.
Moi, je le vois comme ça quand j'essaye, soit que ce soit des phases de recrutement, par exemple pour un stagiaire, ou qu'on fallait recruter un pentester junior ou plus senior, etc. Ah, moi, mon premier réflexe, c'était ou bien de regarder s'il y avait un Routemu, un Xbox ou un GitHub, en fait, tout simplement. Les trois, c'est le mieux.
Ouais.
un sur trois, c'est déjà pas mal. Et finalement, à travers tous les entretiens que j'ai pu faire quand on cherchait à recruter, je me suis rendu compte que c'était très rare en fait les gens qui avaient un joli GitHub bien fourni de tools, etc. Même juste un seul tool en fait, hein, tu vois. C'est quand même assez rare en vrai. Donc moi je trouve que ça a une valeur, tu vois, avoir un profil Routemi, il y en a beaucoup qui en ont un. Avoir un profil Xbox, il y en a beaucoup qui en ont. Avoir un profil TryAcme, alors là c'est tout le monde est top 1%.
Tu connais, ouais.
Bah ouais, je connais, t'inquiète, j'en ai vu beaucoup des gens avec qui étaient dans le top 1% de TryAcme. Mais par
Ouais,
contre,
on les voit.
avoir un GitHub avec plusieurs outils utiles et utilisés par la communauté, c'est très rare. Alors on va devoir commencer par choisir un tool pour l'expliquer, on va en choisir. En fait, on a fait pas mal, mais moi je vais prendre ceux qui m'intéressent le plus. Et on va commencer par un sujet dont on avait déjà parlé dans un précédent podcast, c'est la DPAPI. On va pas revenir sur tout ce qu'est la DPAPI. On va quand même faire un tout petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent sur DonPapi. Mais il faut savoir que notre ami Thomas, très content de ce qu'avait fait DonPapi, il a décidé de refaire son propre outil. Alors moi, très franchement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à refaire un outil, quelle était ta motivation, parce que c'est pas du petit code, hein, c'est pas deux lignes bash derrière. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à dire, ok, le sujet il a déjà été poncé, on connaît tous les tenants et les aboutissants de DPAPI, il y a déjà des tools en Python, il y a des tools en C#, il y a des tools dans tous les langages, même en Rust, je suis sûr. Mais moi, je vais en refaire un. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à refaire?
La DPAPI, en gros, c'est ce qui est utilisé sur Windows pour on va dire, stocker les secrets de manière chiffrée, proprement chiffrée. Et en fait, il se trouve que nous, on s'en sert beaucoup quand on fait des tests internes, parce que du coup, les gens qui enregistrent leur mot de passe sur leur navigateur, etc., bah, en fait, derrière, vu qu'ils sont enregistrés vis-à-vis de leur session Windows, en fait, quand on va compromettre leur session Windows, on va pouvoir compromettre tous leurs secrets.
Très bien résumé. Et du coup, ma question c'était, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à refaire un outil alors que quelque chose existait déjà avant?
Bah, alors, du coup, de base, je voulais juste ouais, comprendre comment marche la DPAPI. Et du coup, à la base, c'était vraiment un pauvre script Python qui faisait deux, trois trucs basiques, quoi. Et après, en fait, parce que je savais qu'il y avait DonPapi, évidemment, à côté. Mais en fait, le truc, c'est que je me disais que DonPapi, le tool est vraiment très complet, mais il est tellement complet qu'en fait, il y a plein de trucs dans DonPapi qui sont pas vraiment à voir avec la DPAPI. Et moi, je voulais. Du coup, je me disais que ça pourrait être intéressant. Et pour moi, c'était aussi un challenge, du coup, de développer un outil qui est beaucoup plus spécifique, bah, du coup, un peu à la manière de Sharp DPAPI. Hein, c'est vraiment un portage, en fait, que j'ai fait, qui est beaucoup plus manuel, beaucoup plus spécifique, beaucoup moins automatisé. Et c'est pour ça que, du coup, je suis reparti de zéro sur le dev de cet outil. Et du coup, à la base, j'avais sorti une première version qui n'était pas du tout en mode librairie. Et en fait, il s'est avéré que du coup, j'avais écouté tes podcasts, et notamment le podcast avec Zach sur Maski. Et vous parliez justement des outils qui étaient développés en mode librairie, à quel point c'était intéressant, etc. Et du coup, ça m'a déter à le passer en librairie. Donc, j'ai un peu reformaté le code, etc. Et après, avec pas mal de debugging avec toi notamment, ça a fini par donner un truc à peu près bien, quoi.
À raison, puisque en le construisant en tant que librairie, nous avons réussi à l'intégrer à CrackMap.exec. C'était une
Ouais.
grosse feature qui manquait. Maintenant, si vous utilisez CrackMap.exec, Tout comme vous pouvez faire tirer tirer SAM pour dumper la base SAM ou tirer tirer LSA pour dumper la base LSA, vous pouvez faire tirer tirer DPAPI et ça va automatiquement, sur la session que vous avez compromis, hein, si vous êtes admin dessus, essayer de récupérer tout ce qui peut être récupéré, c'est-à-dire les mots de passe dans les tâches planifiées, dans les navigateurs, etc. Ça récupère même le mot de passe Wi-Fi, je crois aussi,
ouais.
Passe Firefox, qui ne sont pas stockés dans la DPAPI, mais bon. Voilà.
Ouais.
Enfin, ça va harvest tout ce qu'on peut harvest comme identifiant, et c'est super bien, parce que c'est quelque chose qui manquait à CrackMapExec. Donc je suis très, très content que ça t'ait inspiré, l'épisode sur Masky, qui lui-même avait été inspiré, comme il l'a dit, par l'épisode avec Pixis, qui avait construit Elsassi en tant que librairie. Et comme on disait dans le podcast, en fait, construire en tant que librairie, c'est ouvrir ton tool à l'intégration d'autres tools, en fait, finalement. Et d'ailleurs, je tiens à préciser aux auditeurs qu'il a, grâce à ça, récupéré son coin. Non, je crois que tu l'avais peut-être eu avant, je sais plus.
Non, je l'avais eu avant, ouais. Ouais.
Ah oui,
c'était sur la pierre Kerberos.
C'est vrai, je n'avais oublié de le préciser, Thomas avait été déjà un gros contributeur à CrackMapExec pour intégrer Kerberos quasi nativement. Et ça, c'est utile, alors pas forcément en cas... Enfin, ça peut être utile en cas réel pour être stealth, un peu plus stealth,
déjà,
mais c'est
ouais.
aussi utile sur Hack the Box parce qu'en ce moment, c'est la mode, c'est de sortir des machines Windows où ils désactivent le support NTLM en fait, c'est dans les GPO. Ouais. Et du coup, ça marche super bien cette feature. D'ailleurs, peut-être que tu as créé ça suite à ça, je sais pas.
Je l'avais créé parce qu'en fait, avec un pote, du coup, en test interne. On s'est dit, tiens, on va mettre notre compte, tiens, on se crée un compte domaine admin, on va le mettre dans les protected users, tiens. Pourquoi pas? Et en fait, en faisant ça, je me dis, mais en fait, merde, CMU, ça marche plus avec protected users. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, allez, vas-y, je vais dev le truc.
Protected user, en fait, pour ceux qui ne savent pas, quand ton utilisateur Windows est dans un protected user, donc c'est le groupe, il ne peut s'authentifier qu'en utilisant du Kerberos. Et pas avec du NTLM. Donc, c'est vrai que si t'avais un utilisateur dans le groupe Protected User, eh ben, tu pouvais pas utiliser CME, tout simplement, même si t'étais domaine admin.
Ouais, exactement. Et en vrai, ça sert aussi, du coup, dans les box, du coup, il y a que du Kerberos, ou dans les domaines, on en voit très rarement, mais ça arrive, c'est les domaines des clients qui sont full Kerberos.
Cette paire, elle a changé la game sur CME, mais on n'est pas là pour parler de CME, même si je pourrais en parler encore longtemps. ok, pour DP Loot, donc c'est super, super initiative que d'avoir reconnu un outil en tant que librairie, parce que c'était un grand manque. Et après ça, tu as publié, alors je ne sais pas dans quel ordre, mais tu as publié deux autres outils qui m'ont un peu marqué. C'est le CertSync, qui va permettre de dumper un NTDS, mais avec du Golden Certificate, du Unpack the Hash. Alors, est-ce que tu pourrais revenir... Et je crois que d'ailleurs, c'est le seul outil, non, qui peut faire ça, du dump de NTDS via un Golden Certificate. C'est ça, non, il me semble.
Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est moi. En gros, du coup, pour expliquer comment ça fonctionne, Golden Certificate, c'est une attaque qui consiste à... Dans un domaine Active Directory où il y a un serveur ADCS, à récupérer la clé privée sur le serveur ADCS, cette clé qui est utilisée pour forger les certificats, du coup à l'exporter et dans son coin à forger des certificats et derrière tu peux utiliser les certificats. Et ensuite, Unpack the Hash, du coup, c'est une petite technique, un trick dans l'authentification PKinit, donc l'authentification avec les certificats. C'est un trick qui te permet de récupérer le HNT de l'utilisateur.
Oui, ok.
Voilà. Et du coup, en fait, c'est bêtement une automatisation de ces deux techniques-là ensemble, en fait.
Tu récupères le CA et la private key de ton ADCS, et après, tu vas forger un certificat au nom du compte du DC ou d'un compte domaine admin, c'est ça?
En fait, non, je forge des certificats pour tous les comptes utilisateurs du domaine. Et après, je m'authentifie avec tous les comptes utilisateurs du domaine.
Ah, d'accord. Et du coup, en fait, tu dumpes pas réellement le NTDS, en fait.
Non, ouais.
Tu dumpes pas le NTDS.
C'est presque... On peut dire que c'est presque putaclic, hein, ce que j'ai dit. Hein, mais
non, mais attends. Tu dumpes pas le NTDS, au final.
Ah non, non, tu dumpes pas le NTDS, non. On va dire
que... Il y a écrit littéralement « dump NTDS remotely ».
Oui, bon, ouais,
j'ai
un peu du
coup d'acquis. J'étais curieux, mais en fait, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, tu ne fais pas littéralement un dump de NTDS. Tu vas générée un certif par utilisateur pour récupérer leur HNT
C'est ça,
via la
exactement.
technique de Unpack the Hash.
Ouais, c'est ça. Mais du coup,
Non, mais.
c'est
Ok.
pratique parce que c'est des IOC qui sont différents, quoi. Tu
Complètement,
vas
complètement,
plus avoir
c'est.
besoin de surveiller la DRSU API, en l'occurrence. Ça sert à rien de la surveiller là, parce que en fait, tu dois surveiller les authentifications des comptes. Et du coup, moi, j'ai rajouté deux, trois petites options pour être un peu plus obsèque, entre guillemets, du style un jitter, un timeout, etc.
Et
Ce
ça,
genre de choses.
ouais, en plus, une fois que tu l'as volé, en fait, tu le fais du coup avec un compte non privilégié.
Ouais.
En fait, t'as même pas besoin de compte privilégié à partir du moment où t'as le certificat.
C'est ça.
Ok. Ouais, du coup, en fait, ce qu'il faudrait monitorer, c'est le nom, c'est la génération de certificats par utilisateur, le nombre élevé de certificats générés en très peu de temps, ou la source par laquelle
Bah,
provient la demande, quelque chose comme
en
ça, je
gros,
pense.
même pas, parce qu'en fait, les certificats, tu les forges hors ligne. Donc, tu fais même pas de requête de
Ah oui,
certificat pour tes
putain, t'as raison,
utilisateurs.
t'as raison, ouais.
Après, en fait, ce que tu peux surveiller, ouais, c'est bah, les événements d'authentification. Si tu vois qu'il y a plein d'utilisateurs qui s'authentifient en 3 secondes, c'est un peu bizarre, quoi.
Ouais, mais encore, c'est une authentification valide, hein. Tu sais, souvent,
C'est ça.
là, tu checkes ce qui est invalide, quoi. Donc,
Ouais.
en vrai, pas mal, parce que c'est vrai que le DC-Sync, alors, je sais pas à quel point, maintenant, il y a des règles Sigma que tu peux faire qui sont très poussées pour détecter le DC-Sync.
Ouais, de
Et
ouf.
j'avoue qu'au final, si tu es motivé, tu peux faire tout ce que tu veux et tu vas le détecter quand quelqu'un est en train de te DC-Sync. Mais j'avoue que cette technique, parce que finalement, détecter la génération de certificats.
Et
Pas
tu peux
évident, hein? Ouais.
surveiller, ouais, tu peux surveiller le vol de la clé privée sur le serveur ADCS, quoi.
Oui, non, mais c'est comme des CSync. Si tu peux des CSync, ça veut dire que tu es domain admin,
C'est ça.
t'aurais déjà dû intervenir avant. Mais moi, c'est toujours ce que je dis. Je dis, ok, le gars, il a volé un compte domain admin. C'est toujours mieux de savoir si tu as des CSync ou pas, en fait. Tu vois?
Ouais,
C'est
c'est
toujours
ça.
plus. Même si c'est du post-exploitation, enfin, c'est du post. C'est trop tard, il a déjà des CSync. C'est toujours mieux de savoir. Tu l'as pas bloqué, mais au moins, tu sais qu'il t'a des CSync. La réponse à incident n'est quand même pas la même, tu vois. Si tu as l'assurance qu'il t'a des CSync, que c'est. Ah, je sais pas s'il a des CSync, bon, on va reset tous les creds et tout.
Ouais,
Et
c'est vrai.
j'avoue que le fait de passer par cette technique, ça peut être. Ouf! Ça peut
Ouais, ça
faire
peut être
mal.
chiant, quoi.
Ouais, ça fait chier. Et du coup, tu l'as déjà testé un peu de test interne ou c'est vraiment un outil juste pour apprendre, pour t'amuser et tout?
Bon, je l'ai déjà testé, mais j'ai jamais eu vraiment besoin. On va dire que je suis jamais tombé sur un cas où je pouvais pas faire de DC-Sync. D'ailleurs, en fait, moi, enfin, généralement, je fais directement un NTDS utile, en fait. Et généralement, il n'y a pas trop d'EDR qui font chier avec ça. Et quand ça arrive, éventuellement, ouais, je vais faire ça. Je vais faire un certing, quoi.
En fait,
Voilà.
un EDR, il peut pas. Alors déjà, il va pas alerter sur ça parce que c'est pas vraiment son rôle
Bah ouais.
d'alerter sur ce genre de choses. Et même si tu te fais alerter, tu ne te feras jamais bloquer. Parce que bloquer
Bah,
un
c'est ça.
DC-Sync, c'est pas la meilleure des idées.
Ouais, le
Jamais, en
domaine
fait.
qui devient en ligne, enfin le DC qui devient en ligne, bof.
En
Un peu
fait,
chiant.
à jamais un outil ne bloquera un DC-Sync. Donc,
Bah.
au final, la technique tirer, tirer. NTDS sur crackmap.exe typiquement elle marchera tout le temps en fait.
Bah ouais, c'est
Il
clair.
n'y a aucun monde où tu seras bloqué quoi. Et moi ce que j'aime bien faire c'est pas utiliser un compte domain admin pour DC-Sync, c'est utiliser le compte machine du domaine
Du DC?
contrôleur pour. Ouais.
Ouais, bah ouais, c'est moins cramé, quoi.
Ouais, c'est le petit tu vois le petit peps.
C'est
C'est-à-dire
ouf.
que dans crackmap.exe tu vois même pas le pound, tu vois, et ça
Ouais.
DC-Sync quand même et ça je trouve ça
Ouais,
trop
j'avoue.
classe. Tu
Ah, j'avoue,
DC-Sync
c'est
avec un
classe.
compte machine.
C'est classe.
Moi, je trouve ça toujours un petit peu plus cool. Et d'ailleurs, ça peut bypasser des techniques de détection hein, de
Ouais.
DC-Sync avec un compte machine, puisque de base, les comptes machines ne font que ce DC-Sync entre eux pour se synchroniser. Quand vous avez deux DC, les comptes machines se DC-Sync pour synchroniser. Du coup, si vous utilisez un compte machine pour DC-Sync, c'est totalement plus legit qu'utiliser un domaine admin qui va DC-Sync qui est complètement illégal. Un domaine admin ne DC-Sync jamais au final.
Ouais, c'est
Donc,
ça.
alors pour ceux qui savent pas, DC-Sync c'est récupérer la base qui contient tous les logins et HNT des utilisateurs dans un Active Directory. Petite précision. Ok, mais c'est très intéressant parce que je n'avais pas ce truc sur CertSync, mais tu as fait du clickbait avec. Avec Dumb NTDS, alors que c'est
Ouais, c'est un peu
pas
honteux, hein,
tout. Ah bah, tout à fait vrai. Il y a un autre tool moi qui m'a marqué que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Récemment on a alors tu vas me rappeler son c'est Deft
Ouais.
qui avait fait un tool qu'il avait d'ailleurs présenté il me semble bien à l'EAC 2022
Pas
qui
exact.
permettait qui s'appelle Impersonnet et qui permettait d'aller récupérer des tokens de utilisateurs privilégiés, typiquement un domaine admin ou un admin de plusieurs serveurs qui est connecté actuellement sur la machine. C'est une technique plutôt que de dumper le LSAS, ou si le LSAS est protégé et que vous ne pouvez pas le dumper, va plutôt aller dumper les tokens qui sont dans les process que l'utilisateur privilégié utilise. C'est ça ou pas?
Ouais, c'est
C'est à peu
exactement
près.
ça en fait.
Ok, bah
C'est
ça va.
exactement ça.
Et tu as décidé, alors il a fait un tool, un binaire, etc., un exe que vous compilez et que vous balancez sur la machine, etc. Et toi, bizarrement, tu as décidé de le refaire en Rust. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à le refaire en Rust. Parce que tu aurais pu le refaire en C++, d'ailleurs, si tu voulais comprendre. Mais
Ouais,
tu as
c'est vrai.
décidé de le refaire en Rust. Quel était le truc en fait?
En fait, moi, je sais pas faire de C++. Du coup, je
Ouais.
me suis dit, quitte à apprendre un langage, on va partir sur un truc un peu à la mode. Hein. Je me suis dit, je vais faire du Rust. Le but, ouais, c'était un peu d'apprendre à faire du Rust. Et du coup, bah, ouais, pareil, d'essayer de comprendre comment ça marche vraiment les tokens, comment ça marche vraiment l'impersonnation. Et après, en fait, enfin, la technique que j'utilisais, j'ai pas utilisé la même technique exactement que Aurélien, enfin, que Deft l'a fait dans Impersonate. En fait, moi, ce que, enfin, pour rentrer pas trop dans les détails,
Si,
ce que je fais,
vas-y.
ben, alors, en fait, donc les deux outils, au début, ils vont lister les différents tokens qui sont dans tous les processus sur la machine. Et en fait, moi, dans mon outil, ce qui se passe après, c'est que tu choisis un PID, donc un process ID, avec son, du coup, ça va aller récupérer son token associé, et tu vas exécuter une commande avec le token associé. Donc typiquement, si l'utilisateur de ce process c'est un domaine admin, eh ben, tu vas pouvoir exécuter une commande en tant que le domaine admin, justement.
Est-ce que
Et
ça traverse le network? C'est-à-dire
ouais, c'est
que
ça. Ça dépend
je
des tokens.
fais... Ok.
Ça dépend des tokens. En fait, tu as plusieurs types de tokens primaires. Enfin, du coup, ça dépend. Ouais, ça dépend des tokens, parce que tu as aussi les tokens impersonate. C'est un peu spécial, mais du coup, la technique que j'utilise, c'est que, en fait, je récupère l'output de la commande avec un emmet pipe que je spawn sur le serveur. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait, j'exécute la commande en tant qu'utilisateur et je pipe le résultat dans le emmet pipe. Du coup, je
Ah, c'est
récupère
malin.
l'output comme ça. Ouais, voilà, c'est un petit trick de filou. Et
Et oui,
Aurélien,
c'est plutôt que d'écrire dans un fichier finalement le résultat et de le lire.
c'est ça. Et Aurélien, lui, il est parti sur autre chose. Pour être honnête, ça fait un peu de temps que j'ai pas relu. Du coup, je sais plus exactement ce qu'il avait fait. Mais je suis en train d'ouvrir le code en même temps, tu sais. Mais ouais, en gros, lui, il était parti sur un truc un peu différent. Et en fait, il a utilisé différents calls à la WinAPI, donc différentes fonctions de l'API Windows. Parce qu'en fait, il y en a plein qui permettent de spawner des process. Avec des tokens différents ou en tant que d'autres utilisateurs.
Oui, c'est une technique qui est pas nouvelle, hein, les personnes au
Oui,
final.
c'est pas nouveau. Et en fait, voilà, lui, il utilise notamment d'autres fonctions. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu, c'est create process as user qu'il utilise notamment. Et du coup, voilà, il utilise ces fonctions-là qui vont gérer différemment le spawn de process. Mais voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que bah, du coup, c'est un comportement qui est légitime en fait. Quand un compte NT System va impersonnette un utilisateur sur la machine, et en fait, ça arrive assez régulièrement et du coup, c'est très très difficile à détecter comme comportement. Contrairement à un dump LSAS où bah, tu sais que quand le process il est en train d'ouvrir un handle sur LSAS, bon là, c'est un peu bizarre, quoi.
Pourquoi dumper un LSAS quand tu peux simplement... Après, oui, c'est pourquoi dumper un LSAS quand tu peux simplement impersonner. Il n'y a même pas de protection en fait contre ça. Tu peux rien faire en fait. Enfin, côté Blue Team, t'es keblo en fait parce que...
C'est très compliqué. Ouais.
Mais, mis à part... Là, je sais pas comment tu peux te protéger. La seule façon de se protéger, c'est de faire un bon tiering et faire en sorte que l'utilisateur qui se connecte sur le serveur, s'il a plus de privilèges, il n'est pas domain admin déjà, c'est pas la base, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Etc. Mais ouais, c'est bon. Après, c'est toujours ce qu'on dit. Si le mec il est déjà système sur ton poste, c'est déjà un petit peu le début de la fin, on va dire.
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais.
C'est toujours le problème. Donc bon,
Mais c'est
c'est.
vrai que c'est vachement pratique parce que souvent en test interne, bon, tu te retrouves chez des clients qui n'ont pas forcément une très bonne hygiène d'administration, c'est-à-dire des administrateurs du domaine qui se connectent un peu sur toutes les machines, ce genre de choses, mais qui ont un super EDR qui bloque toutes les techniques classiques de Dump LSAS. Et du coup, bah là, tu es bien content quand tu as une technique comme l'impersonate qui ne fait pas sonner les EDR.
Ouais, moi je vois un autre, même sans EDR, je vois un autre cas d'usage, c'est quand il y a Credential Guard et que tu
Ah
peux
oui.
pas, enfin que t'as pas le temps d'attendre pour, enfin tu sais, t'as la technique du même SSP là où
Ouais.
faut dès que le gars va se loguer, ça va écrire ses identifiants dans un fichier. C'est vraiment pas
Ouais, c'est
OPSEC.
clair.
Mais et puis faut, enfin voilà, c'est, et puis tu rends vulnérable la machine, etc. Là je trouve que c'est une manière plus élégante sans, tu sais, altérer le fonctionnement finalement de la machine, quoi.
Bah, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Très pratique, je trouve.
Et du coup, tu en as retenu quoi de développer en Rust et de créer ça?
Bah, en fait, je trouve ça vachement intéressant. Moi, c'était la première fois que je faisais du dev sur la WinAPI directement. Et c'était super cool, la dev, en vrai. C'était super intéressant. D'ailleurs, bah, découvrir Rust aussi, c'est super cool comme langage. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, j'avais publié cet outil un petit peu en mode, bon, bah, j'ai essayé d'apprendre le Rust, voilà. Et tu as Gohan qui a fait une super paire sur mon outil. Parce que mon code était dégueulasse et il a tout bien remis. Et il est du coup maintenant il a rendu le tout l'utilisable en mode librairie. C'est-à-dire tu peux l'importer dans des outils Rust en tant que librairie et du coup utiliser les fonctions que j'avais fait. Donc merci à lui. Au début, quand tu commences, tu te manges un peu les dents dans le mur. Mais après, petit à petit, c'est de plus en plus simple et fluide. C'est super cool à développer. Après, moi, ce que j'ai fait, vraiment, c'est hyper basique, hein. Je veux dire, il y a des types qui font des trucs, bah, du coup, notamment Gohan qui a fait un truc incroyable en Rust, beaucoup plus impressionnant que ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai vraiment. Enfin, ça ressemble beaucoup, limite, à du code C ou à des trucs comme ça, hein. Le code est visuellement à peu près pareil. Les appels à la WinAPI sont pareils, etc.
Ouais, mais en fait, c'est pas tant ça qu'il faut voir. Faut voir. Toi, t'as fait la contribution. Après, quelqu'un d'autre qui va avoir une idée, il va dire, ah, on pourrait faire un personnet, par exemple, comme Masky, tu vois. On pourrait faire du impersonate et générer des certificats automatiquement avec la personne que t'as impersonate, tu vois.
Ouais.
Et ben, si, imagine, il se dit, je veux le faire en Rust. Et ben, grâce à ta lib, il a déjà une base, tu vois ce que je veux dire? Ou même,
Ouais.
il a déjà le code pour faire cette partie de impersonate, tu vois. Donc, en fait, chaque lib fait avancer la lib suivante, tu vois ce que je veux dire, si elle est reliée.
Ouais,
Donc, en vrai, la contrib... en fait, ça reste une contribution à la sécurité offensive, quoi, tu vois. C'est ça qui est énorme. Et donc, par exemple, si je veux démarrer sur Rust, c'est déjà un bon point, tu sais, d'avoir un truc où je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait de l'impersonate. Et ok, comment il impersonnate une personne, bah, j'ai
Ouais, c'est
déjà
ça.
le code, tu vois.
De ouf. Non, moi j'ai hâte de voir un Rust exec. Tu sais, un PS exec, un espèce de REMCOM, mais en Rust. Ça serait assez
Ouais,
cool de
ben,
voir.
complètement. Ouais. En fait, le seul problème, c'est le why, enfin le pourquoi on devrait faire un Rust exec. Et en fait, il faut que ce soit un mec qui a envie de s'amuser, de recoder, et un peu comme Gohan, tu vois, ou un peu
Ouais.
comme toi. Mais sinon, moi, tu vois, tu me dis, on va faire un Rust exec. Et moi, je te dis, ouais, mais tu sais, mon PS exec, il passe tout le temps partout.
Ouais.
Pourquoi passer des heures à
C'est vrai.
recoder, tu vois? Enfin, dans 90% des cas, si ton PS exec il passe pas, tu mets un WMI exec, tu vois, ou un AT
Oui, bah ouais.
exec. Ou... C'est ça le truc, en fait, c'est que tu as toujours un autre pour te sortir de la mouise, quoi. Donc,
Bah c'est ça, ouais, c'est plus pour le fun à faire, mais ouais.
Ouais, c'est pour apprendre, je pense. Mais
Ouais.
ce sera peut-être le futur. En vrai, moi, je serais curieux, mais je parle en années, là, hein, je parle pas en mois. Donc,
Ah ouais, c'est sûr, hein, une paquette en reste, ça prendra du temps.
ouais. Du coup, quand même, je voulais aborder le vrai sujet de ce podcast. La chose qui m'a fait faire le déclic, qui m'a dit, ok, c'est le moment de l'inviter dans ce podcast, puisqu'il va avoir l'occasion de nous parler de quelque chose qui... Un sujet qui n'a pas été abordé, où il n'y a pas de blog post. Il existe dans trois pauvres outils, un en PowerShell ou en C# et deux en Python qui existent. Toute l'infosec du monde. Ce sujet-là, c'est récemment, enfin, allez, on va reprendre l'histoire. Récemment, Windows, puis le patch d'avril 2023 a intégré l'apps directement à Windows Server. Alors, petit rappel, l'apps avant, c'était un utilitaire externe qu'on installait sur les serveurs qui permettait de générer automatiquement un password random pour le local admin, un local admin qu'on choisissait. Par défaut, c'était le RID 500 Administrator. Et tous les 30 jours, il va automatiquement changer son mot de passe, etc. Donc en fait, l'apps, c'était une solution pour ne pas gérer les mots de passe de vos administrateurs locaux et avoir un mot de passe différent sur chaque machine. C'est génial puisque ça veut dire que si vous aviez le même mot de passe sur toutes les machines, si vous arrivez à compromettre une machine, finalement, vous compromettez tout le domaine. Grâce à l'apps, c'était plus possible puisque compromettre un poste, eh ben, le mot de passe était différent de l'administrateur sur l'autre poste. Ce problème, c'est que c'était pas ouf ouf. Fallait installer un binaire sur chaque poste, etc. Récupérer le mot de passe. Fallait un binaire spécial et tout. C'était pas ouf ouf. Microsoft a décidé de l'intégrer directement à sa solution Server 2022 ou via une KB. Et maintenant, en fait, c'est carrément une GPO maintenant. Et maintenant, quand vous déployez l'apps, déjà c'est natif, vous n'avez pas d'autres binaires installés. Et quand vous voulez récupérer le mot de passe, vous avez juste à faire clic droit sur le computer où vous voulez récupérer le mot de passe de l'administrateur local et vous mettez show password et vous voyez son mot de passe. Ça, c'est ils ont reproduit le fonctionnement d'avant. Mais ils ont été un petit cran plus loin. Ils se sont dit, ce serait bien si on pouvait récupérer les anciens mots de passe qu'on avait 7. Puisque tous les 30 jours, j'ai dit, le mot de passe va changer. Vous pouvez même changer ce délai, il peut changer tous les 7 jours. Le problème, c'est que il y avait un besoin de la communauté des ingés, c'était de garder l'ancien mot de passe. Puisque il est possible qu'une machine parte offline, le mot de passe change. Et bien là, problème, vous ne pouviez pas, ou alors il fallait faire un script custom qui va tourner en tâcheron et qui va récupérer le mot de passe toutes les semaines. Eux, maintenant, ils ont intégré une base où les anciens mots de passe sont stockés. Sauf que pour stocker ces mots de passe, il fallait les chiffrer. Et du coup, ils ont fait tout un process où ils se sont dit, eh, vous savez quoi, maintenant, les mots de passe Labs, on va les chiffrer. On va les chiffrer. Alors, pas sur le poste en question, ça sert à rien. Mais on va les chiffrer dans la base de l'Active Directory, dans la base LDAP. Il faut savoir qu'avant, le cas d'usage standard, c'est on peut récupérer, si on a les droits, le mot de passe de l'administrateur local, c'est stocké dans l'annuaire LDAP de chaque compte machine. Sauf qu'ils se sont dit, bah, c'est pas suffisant, maintenant on va les chiffrer. Il n'y a que certaines personnes, donc le groupe Domain Admin et d'autres personnes si vous voulez, qui pourront déchiffrer ces mots de passe et le récupérer. Donc évidemment, le compte machine qui est cible peut récupérer son mot de passe et le déchiffrer, mais aussi maintenant, enfin, le groupe que vous pouvez préciser. C'était très long, est-ce que j'ai bien résumé ou pas?
Ouais, non, c'est très bien résumé.
Okay, bon, j'espère que les auditeurs comprendront. Bref, là c'est pas très compliqué. Juste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont ajouté une couche de chiffrement sur le stockage des mots de passe Labs. Et la vraie question qu'on se posait, c'était, mais comment est-ce que ce mot de passe était chiffré? Avec quoi?
Bah
Est-ce
ouais.
que c'est une clé symétrique, etc. Et c'est là qu'est intervenu Thomas, et il va parler à ma place parce que j'ai déjà beaucoup parlé.
Ouais, exactement. Ouais. Bah, en fait, c'est ça. Hein. Je crois que le truc qui m'a lancé sur OK, qu'est-ce qui se passe dans Labs V2, c'est quand on en a parlé tous les deux en off et tu m'as dit ouais, ce serait quand même cool de pouvoir déchiffrer les mots de passe, de pouvoir redéchiffrer les mots de passe Labs, enfin, de pouvoir y réaccéder.
Bah, ça avait tué la feature Labs de CrackMapExec, hein, tout
C'est
simplement.
ça. Et du coup, je me suis dit allez, j'ai pas de sujet de raid en ce moment, vas-y, je vais me lancer là-dedans. Et du coup, au début, en fait, le guest, c'était un peu un genre de DPAPI, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, c'est un peu de la DPAPI, mais c'est la DPAPI NG, Next Generation. C'est la toute nouvelle DPAPI de Microsoft. Enfin, toute nouvelle, en fait, elle a déjà quelques années, mais voilà. Et du coup, le truc, c'est que, bah, en fait, il n'y a aucun script qui permettait de déchiffrer ces mots de passe. De manière fluide, en fait, il n'y avait rien qui le faisait, quoi. Du coup, il y avait quand même quelques POC qui sortaient. Il y avait notamment XPN, Adam Chester, qui avait sorti un POC en PowerShell, mais du coup, il utilisait les fonctions de Windows. Donc,
Native, ouais.
ouais, c'est ça. Donc, il a triché, hein. Non,
Bah oui, c'est pas vraiment un POC,
mais
c'est une
voilà, le
feature.
but, c'est ça, en fait. Il fallait reverse, quoi. Et ça, vu que moi, je ne sais pas le faire, je ne l'ai pas fait. Il y a un type qui est super fort, qui s'appelle Jérôme Boréan, qui a fait tout ce travail de reverse, qui avait l'air vraiment hyper complexe. Et du coup, moi, je me suis beaucoup basé sur tout son travail de reverse. Il avait fait notamment un GIST où il expliquait toute sa démarche, en fait, tout ce qu'il a pu retrouver, les étapes, etc. Après, c'était très, très sommaire, hein. C'était pas du tout, on va dire, abouti, c'était pas un article, quoi. Mais du coup, je me suis basé là-dessus. Et le but était de refaire ça via Python avec Impaket, chose qui, du coup, bah, n'avait pas été fait, quoi. Le but, c'était, du coup, ouais, le mettre dans Impaket pour derrière l'intégrer dans tous les outils qu'on avait déjà. Et c'est là que les emmerdes ont commencé, en fait, hein, parce que c'était vraiment galère. Donc déjà, ouais, j'ai pas mal regardé ses notes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, tu récupères un blob de données dans l'annuaire LDAP. En fait, quand tu demandes le mot de passe, en fait, tu récupères un blob de données qui est en réalité un blob PKCS7. Donc, en gros, c'est une structure de données ASL. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je vous dis que les emmerdes ont commencé là, quoi. Et du coup, là, moi, je ne suis pas un grand adepte de ASN. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser ChatGPT pour dépaquer le blob PKCS7. Donc, bon, après, c'était quoi? C'était, je pense, 10 lignes de code, hein, qui m'a fait même pas. Et ça a relativement bien marché. Mais voilà, pour dépaquer toutes les données qui étaient intéressantes. Derrière, en fait, dans ces données, tu dois récupérer un ID de ce qu'on appelle la clé KDS, la KDS root key, qui est enfin, qui est une clé qui est stockée au niveau du contrôleur de domaine et qui va être utilisée pour dériver, en gros, le mot de passe du compte Labs. En fait, tu vas récupérer, donc, dans toutes ces données, ce blob de données, tu vas récupérer l'ID de la KDS et d'autres informations, notamment les utilisateurs qui ont accès à ce mot de passe, etc. Et ensuite, tu vas devoir faire un appel avec une fonction sur l'interface RPC MS-GKDI. Donc, tu vas devoir faire un appel à la fonction GetKey. Et en fait, avec cette fonction, tu vas lui envoyer toutes les informations que tu as, donc l'ID de la KDS. Tu vas lui envoyer du coup les utilisateurs. Tu as aussi différentes clés que tu dois lui envoyer, que tu vas retrouver, etc. Et quand tu lui envoies toutes ces données, ben, en fait, lui va te renvoyer du coup des clés, d'autres clés qui vont être après utilisées pour être dérivées, etc. Et du coup, là, c'était assez galère parce qu'en fait, ben, moi, je voulais le faire avec Impaket. Donc déjà, dans Impaket, il n'y avait pas l'interface RPC qui était développée. Donc, il a fallu redévelopper toute l'interface RPC MSGKDI dans Impaket. Et en fait, il se trouve qu'une fois que je l'avais développée, j'essaye de l'utiliser et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. J'essaye de manipuler les données dans tous les sens. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. En fait, je me rends compte en débuguant, à coup de print, hein, évidemment, en débuguant qu'en fait, la connexion sur l'interface RPC ne se fait même pas. Ce qui se passe, c'est que c'est une interface qui se fait en RPC over TCP. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais là, c'est RPC over TCP. Et du coup, ça va utiliser un protocole qui s'appelle Endpoint Mapper. Et ce protocole, on va lui demander, sur le port 135, du coup, on va lui demander d'accéder à l'interface en question. Et il va nous dire, OK, bah, va sur le port 40 000, je ne sais pas quoi, et connecte-toi là-bas. Et en fait, moi, il ne m'envoyait jamais sur le port 40 000, je ne sais pas quoi. Et du coup, là, j'ai un peu galéré. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait un script, du coup, qu'avait fait ce type-là, Jérôme. Il avait fait un script qui se connectait sur l'interface, mais sans Impaket. Il avait fait vraiment tout à la main, quoi. C'est vraiment vrai. Et en fait, j'ai comparé les traces Wireshark de nos deux outils et j'ai vraiment comparé octet par octet, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un octet qui n'était pas le bon, mais vraiment, il n'y en avait qu'un seul. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans Impaket, il y avait une mauvaise implémentation du Endpoint Mapper. Donc, il y avait une valeur qui n'était pas bonne. Donc, ça, j'ai galéré de ouf à le trouver. Et finalement, j'ai changé cette valeur et là, ça remarchait. Bon, après, j'ai quand même dû encore manipuler un peu les données pour faire en sorte que mon call RPC marche vraiment bien. Mais au bout d'un moment, ça y est. Ça y est, j'avais mon Colère PC qui marchait, impeccable. Et après, par contre, du coup, il y a toute une phase de déchiffrement à coup d'algorithmes de KDF, etc., de AES, GCM, je crois, genre de choses. Donc là, c'était très galère. Et là aussi, Jérôme, il avait déjà du coup implémenté un peu toute cette partie-là en Python, mais avec une librairie qui n'est pas dans Inpacket. Et là, du coup, moi, j'ai tout refait finalement avec une autre, avec PyCryptodome, du coup. Donc c'était assez galère. Déjà parce que je ne connais pas trop la crypto, donc il a fallu que je lise beaucoup de docs et de codes pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ça a été assez long. Et ensuite, donc, au bout d'un moment, je commençais à comprendre à peu près les tenants et aboutissants, on peut dire ça comme ça. Mais il se trouve que dans la librairie PyCryptodome, il y avait notamment la fonction KDF qui était utilisée par Windows, qui n'était pas existante en fait. Donc, enfin, elle était existante, mais il y avait quelques problèmes dedans. Donc, j'ai dû la refaire. Donc, c'est une fois que tu utilises cette fonction qui est bien faite, derrière, tu peux dériver d'autres clés qui vont te permettre de générer derrière une clé que tu vas utiliser pour déchiffrer la clé qui est utilisée pour chiffrer le mot de passe. Et en
Eh
fait,
ben.
ouais, donc ça c'était assez galère. Et notamment, cette clé qui est générée, c'est ce qui s'appelle le KEK, qui va être utilisé pour déchiffrer, ou plutôt unwrap, le CEK, Content Encryption Key. Et cette CEK, elle est justement, c'est elle qui va chiffrer le mot de passe. Et en fait, il se trouve que du coup, cette phase avec le KEK où je dois unwrapper le CEK, eh ben, c'est pareil, c'était pas développé en fait. La RFC était absente de PyCryptodome. Donc j'ai dû la refaire. Bon, ça va, c'est une petite fonction, mais du coup, moi qui connaissais pas grand-chose en crypto, c'était assez compliqué au début. Ouais, du coup, finalement, j'ai réussi à développer ça, à extraire la CEK, à déverrouiller le blob, enfin, du coup, le blob, la partie chiffrée, et du coup, accéder au mot de passe. C'était très, très galère.
Je pense que quand tu as réussi à déchiffrer le mot de passe, tu as dû être très heureux.
Oh, bah, je pense que j'ai poussé un petit cri, ouais. Oui,
Un petit
clairement.
cri de la victoire, le même
Ouais.
cri que quand tu es NTDS.
Ouais, c'est ça.
Alors, en vrai, de vrai, ça ferait un bon sujet de présentation pour Barbac 2023, je trouve. Mais je dis ça,
Ok, ouais.
avec des schémas et tout. Franchement, je serais. Parce que là, tu nous l'as résumé en 10 minutes. Et moi, je dis, ça ferait un super sujet, puisque, comme tu dis, c'est la DPAPI nouvelle génération. Très différent de ton tool DP Loot que tu avais fait, qui utilisait la DPAPI standard. En vrai, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de choses à apprendre, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient très intéressés.
Ouais, bah ouais, non, mais c'est vrai. En plus, là, vraiment, j'ai expliqué un peu ma démarche, mais j'ai fait que effleurer le sujet,
Eh
quoi, parce
ouais!
qu'il y a plein de trucs intéressants dans la DPAPNG, le fonctionnement, pourquoi ça a été mis en place, en fait, toutes ces choses-là, quoi. Mais je vais en parler un petit peu à la talk que je vais faire à l'EAC, notamment.
Bah écoute, je serai là pour écouter ce fameux talk. Tu avais aussi parlé d'un GMSA Golden. Alors, je sais pas ce que tu voulais dire par là. Dans le tweet, tu avais dit je peux déchiffrer les mots de passe Labs. Et t'inquiète, on pourrait peut-être aussi utiliser ce bout de code que j'ai fait pour faire du GMSA Golden. Et franchement, ça pique ma curiosité. Je ne sais pas ce que c'est que le GMSA Golden.
Et ben en fait, alors le Golden GMSA,
Golden
c'est
GMS, ouais.
une, ouais c'est ça, c'est une technique qui a été, on va dire, introduite par, du coup, je crois qu'il y avait Elad Shamir qui était dans le coup et Sam Peris. Et en fait, c'est une technique à utiliser. En fait, il faut savoir que les mots de passe des comptes GMSA, donc qui sont les comptes de service, on va dire. Qu'on est censé utiliser dans un Active Directory. Ces mots de passe, ils sont un peu comme Labs, ils changent régulièrement, etc. Tout seul, ils sont bien complexes, machin. Et en fait, ces mots de passe, ils sont générés de la même manière que Labs avec cette clé KDS rootkey. Ils sont dérivés de cette clé. Et du coup, en tout cas, là, en l'occurrence, les mots de passe GoldenGMSA, ils sont générés via cette clé. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, donc, ils ont sorti un outil en C# qui utilise, enfin, qui met en place toute cette technique d'export de la Cadence Rootkey et pour derrière forger tous les mots de passe des comptes GMSA, etc. Et en fait, il n'y a pas d'équivalent en Python, notamment parce que déjà, ce n'était pas développé sur Inpackets. Etc. Ou enfin, parce qu'il n'y a pas qu'une paquette, hein, mais ouais, c'est pas développé sur une paquette. Et en fait, du coup, il y a notamment dans ce tool, il y a l'appel à la fameuse MSGKDI avec l'appel à la fonction GetKey qui est utilisée et qui est nécessaire. Et du coup, en fait, vu qu'il y a cette interface que j'ai pu refaire sur une paquette, bah, en fait, on pourrait réutiliser cette interface, mais pour cette nouvelle, enfin, cette autre attaque GoldenGMSA. Qui est un peu un truc de persistance, quoi. Du coup, tu exportes la clé, et derrière, tant que la clé reste valable, tu peux connaître les mots de passe de tous les comptes GMSA, sans répéter le LDAP.
Ok, bah, c'est très intéressant. Bah, du coup, ça sera le futur à un autre
Ouais, pourquoi pas. Ouais. Un T4, quand j'aurai plus de sujet de R&D sur le tas, je me lancerai là-dedans.
tool. J'espère que cet épisode t'a plu.
Ouais, carrément, c'était super cool.
Bah, on verra si les auditeurs sont aussi enthousiastes.
J'espère que tu t'as plu aussi.
Moi, j'étais
Ouais,
très très content. Comme je l'ai dit au début, hein, je voulais t'interviewer depuis longtemps, mais je suis très content d'avoir attendu. Ça m'aurait fait mal de t'avoir déjà enregistré et que tu me sortes le déchiffrement de l'APS juste après.
ouais
Il y a des timings à voir. Je rappelle que Thomas
c'est bien vu.
sera avec Touf, la personne qu'on a aussi eu en podcast sur Don Papy, à l'EHAC 2023, le 30, du coup, si je ne me plante pas, vendredi 30, pour nous parler. Pour nous parler de quoi, justement?
Pour parler de la DPAPI.
Ah, oh,
Eh
comme
ben
par
voilà.
hasard. Bon,
Comme
ça
par
ira,
hasard.
alors, ça ira bien plus en profondeur que ce qu'on a pu un peu dire dans ce podcast. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Je serai aussi présent à l'EHAC et je ferai normalement un workshop Crackmap Exec. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée suivant quand vous écoutez l'épisode. On se retrouve à l'EHAC. Vous retrouvez aussi Thomas à l'EHAC. Petit au revoir, Thomas, à nos auditeurs.
Ciao, ciao.